Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Les grandes voix en débat jusqu'à 19h sur Europe 1. Avec nous, Laetitia Krupa, journaliste politique. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Le spécialiste en communication, Philippe Moreau, Chevrolet. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir Wendy.
Bonsoir Wendy.
On vous retrouve avec cette situation sanitaire préoccupante, ce reconfinement imminent, titre le JDD. On n'attendra pas le mois de mars pour agir. Voilà ce que dit Olivier Véran dans Le Parisien. Le ministre qui veut croire à l'arme de destruction massive, 1 million de Français vaccinés. Mais quand retrouverons-nous une vie normale ? Eh bien, c'est quand même une question qu'on partage largement et au quotidien. Des raisons d'y croire et des raisons de s'indigner. On vous écoute, chère Grande Voix, jusqu'à 19h.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Mais pour l'entrée en matière, coup de cœur, coup de gueule, coup de situation, on va commencer avec un peu d'ironie, je crois, de votre part, Laetitia Krupa, ce soir.
Et un coup de cœur pour la presse nationale qui nous offre aujourd'hui un diagnostic gratuit de notre état psychologique. Je vous explique. Ce matin, vous arrivez devant un kiosque ou devant votre ordinateur. Moi, je suis un peu old school, donc c'est devant un kiosque. Et au moment d'acheter un journal, vous avez devant vous la une du JDD. Vous l'avez dit, reconfinement imminent ou la une du Parisien. Olivier Véran veut rassurer les Français. Donc, Wendy, le diagnostic est très simple. Si vous choisissez le JDD, vous avez le moral à zéro et vous êtes pessimiste. Si vous optez pour le Parisien, vous avez le moral à zéro, mais vous êtes optimiste. À noter que la presse régionale était dans l'ensemble sur un tout autre sujet, histoire peut-être de sortir de la sinistrose, et que François titrait sur le « J'appelle » de Francis Lalanne, appel à la mobilisation générale contre la tyrannie. Merci au passage pour les tweetos qui m'ont abreuvé d'idées aujourd'hui, comme quoi les réseaux sociaux ont aussi beaucoup de bons. À noter qu'une internaute me demandait au passage si on achète les deux journaux, JDD et Parisien, est-ce qu'on a le droit à un chèque psy ? Ah, c'est bien la bonne question du jour, parce que je préfère en rire, moi, je vous dis, parce que je grince quand même un petit peu des dents, je vous avoue. On peut rire et grincer des dents en même temps, et oui, mais je suis complètement perdu, parce que depuis l'arrivée de Jean Castex à Matignon, on était habitué à ce que les grandes annonces type reconfinement fuitent dans la presse, mais de façon univoque. Tout le monde disait la même chose. Du coup, je ne sais plus, je suis perdu. D'autant que si je lis l'interview d'Olivier Véran aujourd'hui dans Le Parisien, ça commence par « Je ne sais pas qui vous annonce une grande épidémie en mars ? Aucune décision n'a été entérinée pour aménager les vacances de février. » Et ça termine par « J'attends les résultats du couvre-feu. Si ça ne baisse pas, si les variants commencent à se diffuser partout, alors on prendra des mesures supplémentaires. Cela s'appelle le confinement. » Bref, rien n'est exclu, mais rien n'est tranché.
Oui, mais je ne sais plus, je suis perdue. Hein, je retiens votre formule et cette chanson qui nous trotte dans la tête. Mais c'est vrai, Frédéric Dabi, à quel sens se vouer ? Mais... Alors, on a envie de faire confiance, mais si la presse en plus se divise,
mais oui, le billet de Laetitia est très très bien vu et très drôle, mais c'est aussi révélateur de cette époque, de cette perte des repères. Et c'est vrai que le pessimisme français actuel, un des plus forts jamais mesurés depuis une vingtaine d'années, c'est l'incapacité de se projeter, c'est l'incapacité d'avoir un cap, d'avoir des repères. Et c'est vrai que les lignes éditoriales des journaux s'en ressentent, même si, c'était l'enquête IFOP de la semaine dernière, 2/3 des Français ont intériorisé qu'un troisième confinement serait imminent. Pronostic, oui, en termes de majorité, mais par contre, en termes de souhaits, on a un effondrement par rapport aux souhaits du premier, du deuxième et maintenant peut-être du troisième, parce que ces confinements sont perçus de manière très différente. On y reviendra.
Bien sûr. Pour parler des réseaux sociaux, vous avez vu un nouvel hashtag qui a vu le jour, hashtag « je ne me reconfinerai pas ».
Ah oui, alors là, on est bien. Alors, moi, je préfère la version optimiste quand même, mais notez dans le JDD, version plus pessimiste, Philippe Moreau-Chevrolet, ça ne vous a pas échappé non plus. Par exemple, la prophétie d'Yves Lévy, un grand immunologue, qui nous dit, vaccin ou pas, il va falloir apprendre à vivre avec. Je ne crois pas forcément au scénario de s'il fait chaud, si c'est l'été, le virus va disparaître. Donc, on nous replonge quand même dans un horizon très compliqué, Philippe Moreau-Chevrolet.
Oui, et ce qu'on aimerait bien, c'est avoir des certitudes. Il n'y en a pas, donc on va faire sans les certitudes. Ce qu'on aimerait, c'est avoir un tout petit peu de visibilité positive, d'énergie, d'optimisme, ne serait-ce que pour tenir, parce qu'on sait que la moitié de la population se déclare déprimée, et une bonne part de la population française est soit en thérapie, soit sous anxiolytique. Donc on aurait quand même besoin d'avoir un discours un tout petit peu entraînant. Donc on attend le politique, je sais pas, on attend toujours le sauveur en France, mais on attend la personne qui va être capable de nous dire que ça va aller mieux, parce qu'il y a un moment où ça va aller mieux, la France ne va pas disparaître, on va pas tous mourir, donc essayons de nous projeter et donnons des informations claires aussi, parce que avoir Olivier Véran dans Le Parisien qui nous dit il n'y a pas de reconfinement et le JDD qui titre sur « voilà le reconfinement qui arrive », on est dans une situation en ce moment de pré-confinement.
Oui, c'est ça. Voilà. Bon alors, donnez-nous des raisons d'espérer en regardant du côté de l'Amérique. Vous avez un coup de cœur ce soir pour une jeune femme, une poétesse. Elle s'appelle Amanda Gorman, Philippe.
Ah oui, j'ai un coup de cœur pour Amanda Gorman. Alors, c'est la révélation de l'investiture de Joe Biden. Alors, faut dire que Joe Biden n'est pas un monstre de charisme, donc il est en quelque sorte facile d'être révélé à côté, mais quand même, elle a 22 ans. Elle avait une tenue, alors on ne sera pas d'accord avec Laetitia Krupa, je crois,
non.
Mais que moi,
sur
je
le look.
Magnifique.
Oui.
Sur le look, un manteau jaune, pétard signé Prada, avec un bandeau rouge signé Prada. Alors, pour information, un Pantone, la Pantone qui fait un peu toutes les couleurs de tous les magazines, toutes les tendances, nous dit que le jaune sera la tendance de 2020 avec le gris. Hein, Laetitia, il va falloir quand même vous y mettre.
Je vous interromps deux secondes parce que vous parlez du jaune, la couleur de l'espoir. Je voudrais qu'on l'écoute. Alors c'est en anglais, mais elle nous dit en substance, il y a toujours de la lumière si seulement on est assez courageux pour l'avoir écouté.
It blooms as we free it, for there is always light if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it.
Voilà, il y a toujours de la lumière si seulement nous sommes assez courageux pour l'incarner aussi, Amanda
Merci
Gorman. Cette couleur qui vous a fait du bien, hein, Philippe.
Oui, et puis elle a 22 ans, c'est une poétesse. Il y a une tradition chez les présidents démocrates américains de faire introduire leur séquence de leur serment, oui, par des poétesses. C'était le cas de Maya Angelou pour Bill Clinton il y a un certain temps maintenant. Et donc elle a pris le relais. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est que elle est appuyée par toute la communauté noire américaine. Donc Oprah Winfrey, traditionnellement, offre à ses poétesses des vêtements. Donc la dernière fois, c'était un vêtement Chanel pour Maya Angelou.
Oui.
Là, ce sont des bijoux. Et pourquoi elle a choisi cette fille et pourquoi Jill Biden, la First Lady, a choisi Amanda Gorman? Eh bien parce que à 22 ans, elle incarne l'espoir de l'Amérique. Elle a un discours très profond. Elle explique par exemple que, au fond, elle a une très jolie expression, on prenait notre tranquillité pour de la paix. Et on n'était pas en paix, et on n'est pas en paix en Amérique, parce qu'il y a des courants profonds qui travaillent la société, qu'on ne voyait pas et qu'on a vu avec le Trumpisme, donc on a vu ça arriver. Et il faut qu'on ait le courage de regarder notre histoire, de faire un petit peu notre examen de conscience pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir enfin aller de l'avant. Donc à 22 ans, dire tout ça, avec un aplomb pareil devant tous les États-Unis en étant filmé avec le président derrière soi. Et une dernière chose, elle a dit qu'elle était candidate à l'élection présidentielle de 2036. Donc apprêtez-vous
à
la connaître, Amanda Gorman.
Philippe, dans l'administration de Biden, elle aura un rôle ?
Sans doute pas.
Non, a priori, elle n'aura pas de rôle. Mais moi, ce que je trouve fabuleux dans cette séquence, c'est que les présidents américains savent céder la place aux artistes. Ils essaient pas d'être des artistes eux-mêmes. C'est un petit peu la différence avec les présidents français qui veulent toujours être écrivains, poètes, philosophes. Ils savent s'effacer derrière des artistes.
Et se servir de leur charisme. Vous avez raison. Vous avez commencé en disant que Biden avait un charisme du litre.
Ils le font plutôt lorsqu'ils ont quitté la Maison Blanche, où ils publient systématiquement des mémoires qui sont très attendues, très lues.
Les mémoires, c'est toujours des événements. Et puis, Barack Obama avait écrit beaucoup de livres, très connus avant d'être élu, surtout sur son père, sur sa filiation, etc. Mais là, avec Amanda Gorman, c'est bien parce que Biden cède la place à une poétesse. Cette poétesse-là, à 22 ans, elle va donner un élan de modernité, une vraie vision d'avenir, et lui n'aurait pas pu le faire. Et c'est ça la grandeur d'un pays, c'est quand on arrive à faire parler les artistes au fond à leur place.
Et réconcilier les générations, ce qui nous manque un peu parfois, on y reviendra peut-être si on
et
a le temps dans
aussi.
Ce débat.
Il faut quand même le rappeler.
Et elle est noire,
c'est très
absolument.
Important aujourd'hui aux États-Unis.
Et les poètes, ça l'est également.
Bien sûr, évidemment.
Il n'est pas mort, le poète. Tenez, je vous donne la parole, Frédéric Dabi, avec votre coup de situation, votre
éclairage.
Ce n'est
ni un coup de cœur, ni un coup de gueule, c'est un coup de projecteur. Alors un peu de promotion maison sur une enquête de l'IFOP qu'a réalisé mon ami François Legrand pour l'association Astrée, qui a été diffusée hier, sur la solitude. Et les résultats sont spectaculaires et révèlent à quel point la Covid impose sa cadence sur nos vies.
Voilà, vous voulez un peu d'optimisme.
Voilà.
Nous
l'avons. Il y a bien sûr la crise sanitaire depuis maintenant un an, ses conséquences dévastatrices sur l'économie, mais à la lumière des principaux chiffres de ce sondage, on voit que la France est également confrontée à une épidémie de solitude. Quelques chiffres, près d'un Français sur 5, c'est 18%, se sent tous les jours, toujours ou souvent seul. Alors ça paraît peu, Wendy, 18%, mais dans une logique d'extrapolation, ça fait 11 millions de personnes.
Ouais,
et au-delà de ce chiffre global, se fait jour une cartographie de la solitude en France. Elle concerne davantage les personnes célibataires, les demandeurs d'emploi, les catégories sociales fragilisées et bien sûr les jeunes, les moins de 25 ans. Et dans les moins de 25 ans, les fameux étudiants, un tiers d'entre eux se sent seuls, trois quarts, ont fait l'expérience d'une solitude douloureuse, toujours ou parfois au cours de la dernière année. Et là, bien sûr, l'effet Covid est indéniable. 68% des étudiants déclarent souffrir de ce sentiment depuis le premier confinement. Alors, comment se manifeste cette solitude ? D'abord, et c'est très nouveau, parce que cette enquête avait déjà été faite en 2018. Donc, on a un avant-après Covid. D'abord, par le fait de le reconnaître. La Covid a en effet contribué à exprimer, puisque par le passé, son sentiment de solitude. Avant, on avait tendance peut-être à le cacher, à ne pas le reconnaître. Il y a un tiers des Français qui reconnaissent qu'ils se sentent seuls. Ils étaient à peine 25% en 2018. Également par son impact indéniable sur le moral et la santé psychique. Sur l'indicateur historique IFOP du niveau de bonheur, la part des personnes se déclarant malheureuses bondit à 37%. Ça monte encore à 71% des personnes qui expriment ce sentiment de solitude. Et sans surprise, ces personnes seules manifestent également deux fois plus que la moyenne des pensées suicidaires. Enfin, ça se manifeste par une prise de conscience. Pour plus de 80% des Français qui se sentent seuls ou pas, c'est un problème important. Et comme on est en France, ce problème doit être pris en charge par les pouvoirs publics. Alors qu'émerge le sentiment majoritaire que les Français ne sont pas assez attentifs aux autres. Et là, pour corroborer ce que vient de dire Laetitia, on a dit beaucoup de mal dans des émissions passées, hier notamment des réseaux sociaux, peut-être comme la langue des obs, c'est la meilleure et la pire des choses. Mais pour finir sur une note moins pessimiste, l'enquête montre le rôle positif des réseaux sociaux comme moyen de garder contact plus facilement avec la famille et les amis. Mmh. Et pour 69%, notamment les gens qui se sentent seuls, ils apportent du plaisir à échanger. Mais en tout cas, cette enquête dans ce momentum Covid si spécifique montre qu'on bascule sur un sujet qui n'est pas directement lié à la Covid, sur un autre chose.
Ouais, très clairement, c'est l'un des sujets évoqués par le ministre Olivier Véran en réponse à une lectrice du Parisien, la dépression liée au Covid et la solitude qui va avec, autre épidémie en parallèle.
Laetitia. Faut-il y voir un lien de causalité, le taux de natalité est en chute libre. Alors, il est en baisse apparemment, il était en baisse déjà avant le premier confinement, mais rappelez-vous, tous les experts nous disaient ça va rapprocher les couples, on va avoir un boom de naissance après ce premier confinement. C'est faux. C'est faux. Le moral des couples est également en berne, et vous avez raison, comme on ne peut plus se voir, alors c'est possible de faire un petit goûter à 15h, je donne des idées à ceux qui auraient des envies de rencontre, mais bon, c'est quand même très compliqué aujourd'hui la situation française, on en rit aujourd'hui avec la petite idée que je viens de donner, mais c'est fondamental. Comment une société peut se relever si elle a le moral à zéro, comment la croissance économique peut repartir.
Ouais, c'est très juste. Laetitia Krupa, Frédéric Dabi, Philippe Moreau-Chevrolet. Après ces coups de cœur, on va se retrouver avec deux sujets d'actualité. J'aimerais qu'on revienne sur ce fait divers, cette vidéo terrible, ce jeune homme de 14 ans massacré à la sortie de son collège. Pourquoi on en parle ? Parce qu'il y a les faits, mais il y a aussi ce qu'on appelle la récupération politique. Hélas, à tout de suite.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
18h51, avec nous en studio Laetitia Krupa, Frédéric Dabi de l'IFOP, Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique, nos grandes voix en débat autour de ce fait divers terrifiant, cette vidéo que certaines chaînes ont décidé de flouter tant la violence est immonde. 10 brutes des assassins en puissance qui ont frappé le jeune Yuril, 14 ans, à la sortie de son collège, c'était tout près d'Europe 1, dans le 15e arrondissement de Paris. C'était il y a une semaine, après plusieurs jours de coma artificiel. Voilà comment va le garçon, c'est ce que nous expliquait sa maman sur Europe 1 il y a quelques heures.
Je pense qu'il y a beaucoup des amis de Yuri qui doivent savoir quelque chose. Et je les invite vraiment d'aller à la police témoigner. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Ce qui s'est passé ce soir-là, j'essaie de comprendre pourquoi.
Yuril qui va un peu mieux, qui sort de son coma progressivement, mais le pourquoi dans cette histoire de règlement de compte probable, information européenne entre bandes rivales, Philippe Moreau-Chevrolet, ça c'est les faits, et il y a tout ce qui va autour, qui vous indigne ce soir.
Oui, il y a le contexte. Il y a le contexte. On a le sentiment qu'au fond, ce type de violence gratuite se multiplie, que ça commence à monter, et qu'il n'y a pas de réponse vraiment politique en face, ou du moins un peu sécuritaire en face. Et ça, c'est la petite musique qui s'impose depuis des mois. En parallèle de l'inquiétude sanitaire, on voit monter cette préoccupation sécuritaire. Ça inquiète évidemment pour les prochaines élections. Puis ça inquiète aussi parce qu'on a le sentiment que la police et le terrain ne sont plus vraiment connectés. Donc ça va alimenter les fantasmes de zones de non-droit. Ça va alimenter beaucoup de ça. Et il y a une vraie réflexion à mener sur notre capacité à faire la police. Mmh. Et c'est depuis des mois le cas, notamment avec les Gilets jaunes. Mais là, c'est ce type d'événement qui est récurrent. Et heureusement, cette fois-ci, il n'y a pas eu de vidéo sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas pour l'instant. Mais c'est en général par les réseaux sociaux qu'on apprend ça par ailleurs, c'est-à-dire qu'on a une diffusion d'images, une certaine déconnexion avec la réalité de la part des agresseurs.
Absolument, là ça vient de d'images de caméras de vidéosurveillance,
oui,
Frédéric Dabi.
Ça apporte du moulin à ce que les Français nous disent dans nos enquêtes. On en avait parlé dans notre première émission, notre enquête de rentrée de septembre dernier sur les principaux enjeux, les principaux sujets de préoccupation pour les Français, juste derrière la santé, la sécurité était arrivée quasiment en tête, avec 28 points de plus en un an. La dernière fois que la lutte contre la délinquance, l'insécurité était montée à un niveau si élevé, c'est en avril 2002. Ce n'est pas anodin quand on se souvient de la date. Dans nos enquêtes qualitatives, le terme d'ensauvagement, il y avait eu tout un débat. Est-ce que Gérald Darmanin a eu tort ou raison d'employer ce terme ? Clairement, les Français le reprennent à leur compte. Et je nuancerai, Cédric Philippe, sur un point. Pour les Français, c'est moins un problème de police, qui fait plutôt bien son travail, c'est l'enquête JDD du jour, qu'un problème de justice, qu'un problème d'impunité et de mauvaise réponse pénale. C'est comme ça que se l'est dit. Et en tout cas, sur ce sujet, preuve qu'elle, c'est un sujet qui va sans doute être majeur pour l'élection présidentielle. Le clivage gauche-droite s'est très fortement atténué.
Laetitia, mais vous avez raison, en fait, de rappeler cela. Il y a un appel à témoins et c'est le plus important, en fait. C'est les faits, c'est un fait divers. N'en tirons pas des conclusions globales sur la politique française et sur, par exemple, les prochaines élections, parce que c'est en train de se passer, là, cette polémique qui monte. Non, c'est un fait divers. Il y a un appel à témoins. Le plus important, c'est de retrouver ceux qui ont fait ça.
Complètement. Sauf que la récupération politique, elle existe, hein, vous l'avez noté. Chacun, Philippe Moreau-Chevrolet, extrême droite versus extrême gauche, Raquel Garrido qui s'attaque, je cite, aux charognards d'extrême droite qui se servent de Yuri pour parler d'ensauvagement. Le hashtag La racaille tue, relayé par Sébastien Chenu ou Marine Le Pen, on est là-dedans, forcément. À chaque
fois. On est là-dedans. Mmh. Alors, effectivement, le plus important, c'est de relayer l'appel à témoins, hein, qui a été beaucoup diffusé sur Twitter, notamment. Oui. Voilà. C'est vrai que c'est le plus urgent. Lui-même se réveille, donc là, on a peut-être une bonne nouvelle, c'est-à-dire peut-être qu'il va pouvoir en dire plus sur ses agresseurs. Mais effectivement, la récupération politique, elle est inévitable. Et on est rentré dans un cycle aujourd'hui électoral pour 2022.
Donc on est déjà.
Les faits divers vont être passés à la moulinette comme ça.
Instrumentalisé.
C'est le cas depuis très très longtemps. Hein. Je rappellerai que lorsqu'il y avait la peine de mort, lorsqu'il y avait le débat après l'abolition de la peine de mort, tout fait divers, tout crime est exploité dans le champ politique pour faire avancer ses idées. Mmh. C'est une constante en France.
Il est 18h55, j'ai gardé le confinement pour la fin, il nous reste quelques petites minutes. Je sais que ça vous fait plaisir, parce qu'à force de parler de confinement, de reconfinement, on ne parle que de ça, hein, ça c'est l'enjeu quand même. Il y a un docteur sur Twitter, doc vacciné, qui nous dit on pourrait confiner maintenant, ce serait plus efficace, car on casserait les courbes d'emblée. Sinon, ce serait très compliqué, mais ce serait mal accepté, parce que ce n'est pas encore la cata, et on n'en bave pas assez. Il y a cette
c'est
part de vérité.
C'est une voix parmi 10 000. Oui. Allez, là, je grossis le trait à dessein, mais c'est une voix parmi combien, honnêtement, si on fait le calcul du nombre de médecins différents qui passent en une semaine sur les grands médias traditionnels, il y en a plus de 100, Wendy.
Oui.
Il n'y a pas un seul consensus.
Et on revient sur ce qu'on disait
en préambule. Un tel, de toute façon, on est dans une société aujourd'hui de croyances et c'est bien malheureux. Alors, qui croire ? Alors ensuite, on va croire plutôt celui qu'on entend dans le média qu'on aime bien, parce qu'on trouve qu'on est quand même proche de cette ligne. Et puis peut-être le lendemain, il y aura...
Oui, arrêtons, chacun a son Saint-Raoul. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'attendra pas Mars pour agir. C'est ce que dit Olivier Véran. Et là, tout le monde se retrouve dans la com' politique.
Oui, tout le monde se retrouve. Oui. Mais c'est vrai que le rapport des Français au confinement change considérablement. Le premier fait confinement avait été accepté massivement. C'était cette aventure collective où on sacrifiait tous du temps, des contraintes, pour pouvoir retrouver le cours de nos vies normales. Ça, c'est complètement fini. Hein. L'adhésion au deuxième confinement était tombée à deux tiers. Là, dans une enquête IFOP fiduciale pour CNews, on n'a que 45% des Français qui accepteraient un confinement modèle octobre-novembre 2020. Et très très clairement, il y aura un travail de pédagogie pour convaincre les Français, parce que le problème, c'est une question d'efficacité. Est-ce que les sacrifices énormes que les Français ont faits depuis maintenant des mois ont payé ? Ils ont surtout mis l'économie à genoux, et ça c'est un discours qui monte beaucoup.
Juste un petit bémol pour les médias, j'ai entendu le mot inéluctable pour le confinement, je vous assure, plus de 100 fois aussi, mais tout le monde est d'accord, inéluctable. Mais on n'y est pas encore, comment pouvez-vous dire inéluctable
est inlassable. Philippe Moreau-Chevrolet, le mot de la fin.
On n'y est pas.
Oui, parce que les Français préféreraient avoir une certitude de confinement que des annonces qui veulent rien dire et qui changent toujours. Non, ce qui est débile, c'est de leur dire le même jour, dans le Parisien, qu'on ne va pas reconfiner et dans le JDD qu'on reconfine. On nous dit des noirs ou blancs, mais pas noirs.
On achète tous les jours.
Arrêtons-le en même temps.
Merci Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil. Merci pour ces enquêtes éclairantes au compte de l'IFOP, Frédéric Dabi, de votre présence en studio. À vous aussi, Laetitia Crepa. Comme chaque semaine, on se retrouve samedi, dimanche prochain, 18h30, 19h. Pour le débat des grandes voix, merci. L'info dans un instant.
Les grandes voix.